Radio Okapi.
Nous demandons ce journal par cette condamnation que le Conseil de sécurité des Nations Unies rend public concernant les récentes violations du cessez-le-feu par le M23. Toujours dans cet élément que nous vous proposons, vous y suivrez son soutien au processus de paix en cours mené dans la région de la partie est de la RDC. Bandundu ténébreuse depuis vendredi dans la soirée. L'obscurité et rien d'électrique ne fonctionne. C'est après la coupure d'un câble haute tension depuis Tobakita, non loin de Kinsele sur l'axe Bandundu-Mongata-Kinshasa. Info alignée également dans cette édition. Serge Mushiko, directeur général adjoint de PKM, société minière Punya KCC Mining, invité de ce journal, revient sur la réhabilitation de l'aérodrome de Bassengue dans la commune rurale de Punya. Les travaux sont achevés. C'est quoi la suite actuellement? Maintenez-vous sous les diverses fréquences de Radio Okapi, votre source d'information de prédilection, et vous en saurez davantage sur tous ces faits et bien d'autres nouvelles du pays. Excellente condition d'écoute à toutes et à tous. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au micro, Billy Ivan Lutumba. Le Conseil de sécurité des Nations Unies se félicite de la 5e réunion ministérielle tenue à Luanda le 12 octobre dernier dans le cadre du processus de Luanda. Il exhorte à cet effet toutes les parties à respecter scrupuleusement l'accord de cessez-le-feu signé par la RDC et le Rwanda le 30 juillet de cette année sous la médiation de l'Angola. Dans une déclaration rendue publique ce vendredi 25 octobre, le Conseil de sécurité des Nations Unies condamne en outre les récentes violations du cessez-le-feu par le M23. Ils ont par ailleurs réaffirmé leur soutien sans réserve au processus de paix en cours mené dans la région. D'autres détails avec Jacques-Yves Molima.
Le Conseil de sécurité invite la RDC et le Rwanda à s'engager de bonne foi dans le processus et à saisir l'occasion de trouver une solution durable et pacifique aux conflits qui perdurent dans la région. Il continue à soutenir tous les efforts visant à parvenir à une cessation durable des hostilités, ouvrant la voie à un règlement diplomatique et à une paix durable. Par ailleurs, le Conseil de sécurité réitère la condamnation de tous les groupes armés opérant en RDC, y compris le M23, les ADF et les FDLR. Il condamne également le soutien militaire étranger apporté au M23 et à tout autre groupe armé opérant en RDC. Toujours dans cette déclaration, le Conseil de sécurité condamne fermement l'exploitation et le commerce illicite des ressources naturelles par les groupes armés et les réseaux criminels transnationaux qui soutiennent ces groupes. Il réaffirme son attachement à la souveraineté, à l'indépendance, à l'unité et à l'intégrité territoriale de la RDC ainsi que de tous les États de la région. Il réaffirme enfin son plein soutien aux efforts déployés par les Nations Unies, y compris les actions stabilisatrices de la MONUSCO, du représentant spécial du secrétaire général ainsi que de l'envoyé spécial pour les Grands Lacs et de son bureau.
Pendant ce temps, sur le terrain au Nord Kivu, des rudes combats sont signalés depuis 5 heures de ce samedi dans plusieurs localités du territoire de Walikale. Après la précaire accalmie d'hier, les rebelles du M23, soutenus par des éléments RDF, ont simultanément lancé des attaques sur plusieurs fronts dans la région. Conséquence, les mouvements de population s'intensifient. Reportage de Chris Mukand.
Des familles entières quittent leurs habitations pour s'éloigner des zones où se déroulent les combats. Elles se dirigent vers Mpeti, d'autres continuent jusqu'à Pinga Centre, plus ou moins 20 km de Kalembe. Même ici, la psychose est au rendez-vous. À Pinga Centre, ce samedi, les activités tournent au ralenti dans les principales localités, notamment Bishimo, Katanga et Nkasa. Alors que les VDP Wazalendo, singulièrement ceux de Nduma, Defense of Congo, se sont repliés sur Mpeti après la reprise de Kalembe par les rebelles, ils ont été surpris par une attaque venue de l'arrière. Une autre équipe du M23 a surgi du village de Katobo en appui aux unités bloquées à Kalembe. Au même moment, l'ennemi mène des attaques sur les localités de Mulema et Ikobo. Pour l'instant, le gros des combats se déroule sur le pont Minjenje, à une dizaine de kilomètres de Kalembe, localité que les Wazalendo est en train de récupérer à tout prix. La société civile de Walikale, qui livre ses informations, demande au gouvernement de prendre la mesure de la situation et de donner plus d'appui aux éléments qui se battent sur le terrain. Goma, Chris Mukand, Radio Okapi.
Toujours dans la province du Nord Kivu, dans le territoire de Beni, la nouvelle société civile congolaise se dit inquiète de l'insécurité galopante à Kassindi-Loubiria. Nous sommes là à 90 km de la ville de Beni. Ces dernières semaines, plusieurs attaques et cambriolages à mains armées ont été enregistrés dans cette cité frontalière de l'Ouganda. Le dernier cas en date s'est produit la nuit de vendredi à samedi. Des hommes armés ont attaqué une boutique en blessant par balle son propriétaire. Denis Kalinga, coordonnateur de la nouvelle société civile du groupement de Basongora, appelle les forces de l'ordre à la responsabilité pour mettre fin à cette insécurité. Il a été joint au téléphone par André Kitenge.
Nous sommes choqués de la situation sécuritaire que nous sommes en train de faire face actuellement au poste frontalier de Kassindi. Vous savez, il y a presque beaucoup de territoires qui sont menacés par les M23, d'autres menacés par des groupes armés. Mais le poste frontalier de Kassindi en territoire de Beni, c'était une cité qui est encore sécurisée. Mais je m'étonne pourquoi cette cité qu'on faisait confiance et que tout le monde voulait se réfugier fait maintenant face à des incursions nocturnes, à des vols, à des banditismes inexpliqué. Aujourd'hui, un frère a été attaqué et criblé de balles. Chez nous, étant que société civile, nous sommes en train de nous poser beaucoup de questions par rapport à la situation sécuritaire actuelle. Est-ce que les éléments de l'ordre qui sont au niveau du poste frontalier de Kassindi ne sont pas à mesure de protéger cette population? Nous sommes en train de dénoncer cette situation parce que ça nous fatigue déjà la tête. Que la police, ensemble avec les forces armées de la République démocratique du Congo, nous aide à activer toute une batterie efficace enfin de pouvoir barrer la route à cet ennemi.
Le commandant de la police nationale congolaise de Kassindi appelle tous les porteurs d'armes à feu, militaires, policiers et jeunes résistants en séjour à Kassindi à se faire identifier au plus tard le lundi 28 octobre prochain. Nous allons monter vers le nord à Ituri où le bureau de la Cour pénale internationale CPI intensifie la campagne d'information sur les réparations dans l'affaire Bosco Ntaganda. Selon la responsable de l'information publique de la CPI, l'objectif de cette démarche est d'atteindre toutes les personnes éligibles aux réparations dans cette affaire. Une vingtaine de journalistes des différents médias ont été impliqués dans cette démarche à l'issue d'un échange samedi à Bounia. Margot Telesco explique au micro d'Isaac Remoyope.
Nous avons lancé récemment une campagne d'information sur les réparations dans l'affaire Bosco Ntaganda. Cette campagne d'information a comme objectif d'informer les populations et en particulier les victimes de l'affaire sur leur droit à recevoir des réparations. Et dans le cadre de cette campagne, nous avons souhaité rencontrer les journalistes de l'Ituri pour expliquer quelles sont les modalités pour avoir droit aux réparations, quels sont les critères et comment se passe tout le processus d'identification et de demande des réparations. On est au début de l'identification des victimes. Donc nous sommes en train de communiquer, d'informer les potentielles victimes éligibles aux réparations sur leurs droits. Et c'est grâce aux journalistes, entre autres, que nous espérons pouvoir atteindre toutes les personnes qui pourraient être éligibles aux réparations dans l'affaire Ntaganda.
Signalons que la chambre de première instance a évalué la responsabilité de Bosco Ntaganda aux fins de ces réparations à 31 millions de dollars américains, de l'argent qui doit être mobilisé par le fonds au profit des victimes. Cela en vue de réparer les préjudices subis par les victimes lors des conflits interethniques de 2002-2003 en Ituri. Nous en sommes à présent à notre deuxième titre de ce journal à Kinshasa, il est 18h08. La ville de Bandundu tout entière est plongée dans le noir depuis vendredi soir 25 octobre. Cela après coupure brusque de l'électricité occasionnée par le détachement d'un câble haute tension à partir de Tobakita, non loin de Kinsele sur l'axe Bandundu-Mongata-Kinshasa. Le directeur provincial de la Société nationale d'électricité SNEL, Kwilu, qui livre l'information, affirme que des équipes de techniciens vont se rendre sur le lieu pour découvrir la panne, réparer et rétablir le courant dans la ville. Ces techniciens seront accompagnés des éléments des FRDC pour les sécuriser sur ce tronçon en proie à l'insécurité des Mobondo. Ingénieur Prosper Bakoukou l'a dit à Irène Boma.
C'est comme vous aviez constaté, la SNEL Bandundu a commis une coupure qui a entraîné la coupure à travers toute la ville. Et après investigation, nous avons constaté que la ligne qui amène l'électricité à Bandundu, chemin faisant, il y a coupure d'une phase. Nous avions alerté à nos autorités à Kinshasa. Je crois qu'il y aura une équipe qui va descendre ensemble avec les équipes de Bandundu ici et en compagnie de les services de sécurité, puisque vous constatez que cette zone, c'est une zone qui est en proie en insécurité. Alors les autorités, la sécurité a accepté de nous accompagner. accompagner pour que dès demain, pour voir comment se rendre sur terrain et décanter la situation. C'est une panne qui a affecté toute la ville de Bandundu. Vous voyez que toute la ville est dans les noirs. Donc, le courant que nous avons à Bandundu, ce courant-là provient de Kinshasa à partir du poste haute tension de Maluku. Et ce courant-là vient à travers les câbles haute tension. C'est comme ça que ce câble-là s'est coupé. Nous allons nous y rendre pour voir comment retrouver l'endroit de la panne et puis réparer et en faire rétablir l'électricité à Bandundu. En fait, après les premières investigations, donc c'est entre les postes haute tension de Tobakita, qui est juste à côté de Kinsele, et la ville de Bandundu.
Infrastructure dans la province du Haut-Katanga, cette province poursuit avec la construction et la réhabilitation des routes. Ceci est contenu dans le programme du gouvernement défendu à l'Assemblée provinciale par le gouverneur Jacques Kiaboula. Les journalistes de Lubumbashi ont, lors de la visite de presse organisée vendredi, découvert ces différents chantiers et les défis auxquels la province fait face dans le domaine des infrastructures. Les détails avec Jean-Andou Kabongo.
La province du Haut-Katanga s'est fixée comme objectif la construction et la réhabilitation de plus ou moins 150 km de route à Lubumbashi. À ce jour, il y a des travaux qui se font sur différents chantiers et il y en a qui ont déjà pris fin. Le cas notamment de l'avenue Likasi dans la commune de Lubumbashi, de l'avenue Babemba dans la commune de Kamalondo, du boulevard Katuba, de la route de Kamasaka et Haute-Rubi dans la commune annexe. Dans la commune de Katuba, un pont de 70 mètres sur 10 est en pleine construction. Sur l'avenue Upemba plus précisément, à l'endroit appelé arrêt dépôt, passe une petite rivière. Plusieurs personnes y ont déjà perdu la vie. Les riverains caressent l'espoir de voir cette fois-ci au moins les travaux prendre fin, car très souvent ils sont abandonnés. À ce cri de détresse de la population, le directeur provincial de l'office des voiries et drainage rassure de donner à Boula.
Vous connaissez les drames qui a eu les années passées ici. Ici, il s'agit d'une modernisation. On réhabilite la route et puis nous allons passer sur un tronçon de gabarit de deux voies de deux bandes. Il y aura aussi les séparateurs au milieu, puis l'éclairage public. Le tronçon part de la route RN au niveau de Matipicha jusqu'au foyer social. C'est une longueur totale de 3,1 km. Cette fois-ci, la solution qu'on a trouvée est l'efficace.
Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Congo central à présent, les cas confirmés de monkeypox ne font que croître. D'après le bulletin épidémiologique de Mpox de la semaine 42, partant de 14 au 21 octobre, 31 cas suspects et nouveaux cas confirmés par le laboratoire de l'INRB à Kinshasa sont notifiés. Selon ce document, à cause de l'influence de la forêt de Mayombe sur la population, l'antenne du programme élargi de vaccination de Boma dans l'ex-district des Bas-Fleuves est la plus touchée, avec 13 cas confirmés à elle seule depuis le début de la maladie dans la province. Le point avec Nana Plurich Mambou.
Selon le bulletin épidémiologique de Mpox de la province du Congo central, 25 zones de santé sont touchées sur les 31 que compte la province. En cette 42e semaine, 4 cas confirmés par les laboratoires de l'INRB et 31 cas suspects sont notifiés. C'est ce qui ramène à 18 le nombre de cas confirmés par les laboratoires de l'INRB et à 457 le nombre de cas suspects notifiés par la province depuis la survenue de cette maladie. Les zones de santé dans l'ex-district du Bas-Fleuve ont à elles seules 317 cas suspects et 13 confirmés. La raison, d'après Dr Bonner Titeku, chef de division provinciale de la santé, c'est la présence de la forêt de Mayombe. La population qui vit majoritairement de la chasse ne respecte pas les mesures de prévention édictées par les autorités sanitaires. Ils manipulent les animaux morts et consomment la viande des brousses mal cuites. Dans le cadre du contrôle de cette maladie et de la lutte contre son expansion, les équipes de la coordination provinciale ont reçu dans la même semaine une dotation de l'OMS en kit de prélèvement des échantillons des laboratoires. Actuellement, ces équipes mènent une sensibilisation communautaire dans les 4 zones de santé à forte prévalence de Mpox, dont celle de Kangou à Lukula. Matadi, Nana Plurich Mambou, Radio Okapi.
Et dans la province du Maniema, le chef de bureau de l'UNICEF Nord Kivu et Maniema annonce pour bientôt l'installation dans cette province du bureau de l'UNICEF avec toutes ses entités. Afou Asosomadi l'a déclaré à la presse après ses échanges avec l'autorité provinciale. Selon ce dernier, la situation déplorable des enfants du Maniema serait la motivation à classer le Maniema dans le programme UNICEF 2025-2029. Afou Asosomadi, dans ses propos recueillis par Florence Kiza.
Le ministère, à partir de son programme du cycle 2025 à 2029, prévoit installer un bureau du ministère ici avec toutes ses entités au Maniema afin d'apporter un soulagement à la population des enfants. Comme vous le savez bien, l'UNICEF c'est pour les enfants. L'UNICEF veut le bien-être des enfants. Voilà, la situation elle est encore déplorable, qu'on le reconnaisse. L'enfant du Maniema a besoin d'être scolarisé. L'enfant du Maniema a besoin de la santé. Tous les enfants doivent être vaccinés. Il y a encore des enfants zéro dose qui existent dans la province de Maniema alors que le programme PEV est fonctionnel. Ce sont des aspects comme ça. L'enfant du Maniema a besoin aussi de la nutrition. Bien, l'autorité était d'abord très très contente parce que ça faisait déjà partie des points relevés qu'il attendait à nous poser. L'autorité a pris l'information. Ça, c'est un soulagement. Moi, ce que je retiens beaucoup de l'autorité, c'est que le gouverneur a lancé son engagement de pouvoir nous aider à nous installer, d'abord mais aussi de voir comment est-ce que les procédures UNICEF vont être respectées, différentes divisions avec lesquelles on va travailler.
Actualité internationale.
L'ex-commandant de l'armée de résistance du Seigneur Elera en Ouganda, Thomas Kwayelo, a décidé de faire appel de sa condamnation prononcée vendredi. L'homme est jugé dans un procès historique, le premier pour des crimes liés à l'insurrection que la Elera a menée de 92 à 2005 contre le pouvoir ougandais. La déception des victimes. La peine de 25 ans que j'ai entendue aujourd'hui est très peu pour nous, les victimes. Nous nous sentons très mal, nos biens qui ont été détruits, les enfants que nous avons ramenés de captivité, nous souffrons vraiment. Cette peine encouragera d'autres personnes qui veulent déclencher la guerre, car après, se diront-elles, elles reviendront dans la société et recommencer la vie, déclare une victime de la LRA. Et puis, vendredi, la capitale du Mozambique a été le théâtre d'affrontements entre la police et des manifestants suite à la proclamation de la victoire de Daniel Chapo, candidat du Frelimo, lors des élections générales du 9 octobre. Malgré une large majorité obtenue par le parti au pouvoir, les résultats jugés contestables par les observateurs de l'Union européenne ont entraîné des manifestations dans les rues de Maputo soutenues par l'opposant Venancio Mondlane.
L'invité.
Dans le Maniema, la société minière Punya KCC Mining PKM vient de réhabiliter l'aérodrome de Basenge dans la commune rurale de Punya. Le directeur général adjoint de PKM qui le dit fait savoir que les travaux sont terminés et n'attend que les homologations de la RVA pour donner le feu vert. Serge Mouchiko est l'invité de cette édition et s'entretient avec Florence Kiza.
Monsieur Serge Mouchigo, bonjour.
Bonjour Madame Lunga.
Vous êtes à quelle étape avec les travaux de réhabilitation de l'aérodrome des Basenge et plus précisément dans les territoires des Punya?
L'aérodrome est terminé. Donc on a réussi à faire 2 kilomètres d'asphalte. Tout est opérationnel. Nous sommes à l'étape d'attendre les homologations de la RVA.
Ah, c'est quoi les motivations des PKM en réhabilitant seulement l'aérodrome des Basenge?
D'abord, un sentiment de fierté, un sentiment très 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 engagé au niveau de la population parce que cet aéroport c'est déjà pas seulement pour le côté logistique de PKM, mais c'est aussi pour donner un aéroport à la population de Punya. Comme vous le savez, l'aéroport actuel est quand même dans un état très inquiétant. Alors, donc, il nous fallait avoir un aéroport moderne, vraiment dans des standards internationaux, capable d'accueillir même de gros avions, et nous sommes fiers d'avoir réalisé ça.
Alors, pourquoi seulement réhabiliter l'aérodrome de Basenge et laisser l'autre aérodrome de Kalombenyama?
Très bonne question. Je vous fais d'ailleurs, moi, je suis le DGA donc qui vient de la partie Sakima. Et l'année passée, j'ai accompagné Sakima à une convocation de l'organisme l'OACI. Parce que justement, l'année passée, il y a eu un avion qui a raté son atterrissage. Donc, nous avons commencé par l'aéroport à Punya, mais le prochain, on estime probablement dans une année et demie, on va attaquer celui des KCC comme ça, les deux aéroports seront opérationnels.
C'est-à-dire, votre objectif, c'est pour faciliter les transports de vos minerais?
Nous ne voyons pas ça comme ça. Nous, ce qu'on veut, c'est, nous avons une vision de développement pour Punya. C'est-à-dire, nous voyons Punya comme tout un écosystème à mettre en place. Donc, nous voulons, oui, développer le secteur minier, mais nous voulons aussi permettre à ce que la ville, la cité de Punya devienne pratiquement le prochain Goma de demain. Donc, pour ça, il faut qu'il y ait des aéroports, il faut qu'il y ait l'énergie. Il faut qu'il y ait tout ça. Donc notre but, c'est de créer aussi cette infrastructure qui va appeler d'autres investisseurs, notamment nous-mêmes, parce que nous en dehors des mines, il y a quand même un groupe financier assez intéressant qui s'intéresse aussi à d'autres choses qu'on peut pouvoir développer à travers une logistique qui va permettre à cet essor.
Vous cherchez les développements de la ville de Pounia. Pourquoi alors on n'est pas aussi pensé à la réhabilitation des routes?
La réhabilitation des routes, nous le faisons en même temps. C'est-à-dire, il faut commencer quelque part. Donc, nous avons commencé par l'aéroport pour une raison bien simple. Parce qu'il y a énormément de matériel que nous devons faire venir sur place, que nous avons justement pas pu faire venir par voie de route. Alors, avec l'aéroport, les autres engins vont arriver et nous allons continuer au niveau des routes parce que de Pounia à Kasese, il y a 56 kilomètres déjà qu'on a réussi à réhabiliter sur les 135 kilomètres qui nous séparent de Kasese. Mais nous allons en même temps continuer et finir, relier tous les 135 kilomètres et effectivement d'autres rues, même au niveau de Pounia Centre, nous avons vraiment l'intention d'asphalter un peu partout et de créer des routes pour désengorger pratiquement tout.
Monsieur Serge, combien vous a coûté cet asphalte de l'aérodrome de Bassengue, si ce n'est pas un secret?
Disons, à cette étape, je n'ai pas les chiffres exacts pour la simple raison qu'il y a une division spécifique qui s'en occupe. Mais je vous promets de vous revenir là-dessus pour vous donner l'information avec beaucoup de fierté, beaucoup de joie.
Alors, comment évoluent maintenant les activités des PKM dans cette ville de Pounia?
Donc, la première étape, la condition pour pouvoir avancer, c'était l'aéroport. Maintenant que c'est fait, nous sommes en pour parler avec Sakima pour commencer à réhabiliter le barrage de Belia, la centrale hydroélectrique de Belia, justement. Parce que, comme vous le savez peut-être, au niveau de Pounia, il y a deux turbines. Il y en a une qui fonctionne à moitié, qui peut lâcher n'importe quand. Donc nous venons, pour pouvoir booster ça, aller jusqu'à au moins 9 mégawatts de production, ce qui va pouvoir donner un bon courant au niveau de Pounia. À ce moment-là, pratiquement en même temps, nous commençons l'industrialisation. Mais une fois que le barrage sera opérationnel, le fonctionnement en plein régime de nos usines vont commencer.
Monsieur Serge Mouchiko, je vous remercie.
Merci, c'est un privilège de pouvoir parler à Radio Okapi, mais je vous remercie.
Un journal préparé à Radio Okapi par Alain Irung, Jacques-Yves Molima, Alain Goy a assuré la prise des soins et la mise en onde, et Billy Ivan Lutumba vous l'a présenté. Au nom de toute cette équipe, je vous dis sincèrement merci pour l'attention soutenue accordée à cette édition.